Le 28 juillet 1961.
Il y a une chose importante, que tout est involué, n'est-ce pas? Le mental, le vital, le supramental, tout est involué et ça évolue, n'est-ce pas?
Oui.
Mais alors, si tout est involué, quelle est la nécessité d'une descente? Les choses ne peuvent pas évoluer d'elles-mêmes.
Ah, il a
écrit
ça quelque part.
Mais je ne me souviens pas avoir vu quelque chose qui m'est...
Oui, il a expliqué ça quelque part. Est-ce que c'est pas dans le Gita? Que c'est... Il explique quelque chose que Krishna a dit et comment les deux se combinent. Il n'y a pas très longtemps que je l'ai lu. Justement, j'étais intéressée par cette question-là. Et j'ai même dit quelque chose, moi, de la différence entre ce qui évolue hors de cette involution et de la réponse de ce qui vient, qui existe déjà dans toute sa gloire là-haut. Il faudrait retrouver ça, parce que au point de vue des très vieilles traditions, il y a justement deux lignes, c'est-à-dire deux sortes d'explications. L'une, c'est que c'est la descente, c'est par la descente de ce qui est dans sa perfection que ce qui est involué peut s'éveiller à l'évolution et à la conscience. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'il faudrait, comme la vieille histoire de que Sri Aurobindo appelle la mère universelle ou la Shakti ou le Satchitananda, s'est aperçu de ce qui était arrivé dans la matière, ce qui a créé la matière et cette involution qui a amené la conscience totale. Alors, la vieille tradition, c'est qu'à ce moment-là, direct, hors du Seigneur, l'amour divin est descendu dans la matière pour commencer à éveiller ce qui était involué là. D'autres traditions, au lieu de l'amour, disent la conscience. La conscience divine. Il y a même des récits imagés des représentations d'un être à lumière prismatique qui est dans la grotte de l'inconscient et qui, dans un sommeil profond, et que dans cette descente, l'éveil a une activité encore, pour ainsi dire, intérieure, une activité dans l'immobilité, une activité de rayonnement, d'action par rayonnement, et qu'alors de son corps sort d'innombrables rayons qui se répandent dans l'inconscient et qui petit à petit éveillent dans chacun, dans chaque chose, pas dans chaque atome pour ainsi dire. L'aspiration vers la conscience et le commencement de l'évolution. J'ai eu l'expérience d'avoir été envoyé, pour ainsi dire, tu comprends? Et alors ça, c'était sous une forme combinée d'amour et de conscience. L'amour divin dans sa pureté suprême, la conscience divine dans sa pureté suprême, émanait directement sans passer par tous les états intermédiaires, directement dans les profondeurs les plus profondes de l'inconscient. Et là, c'était l'impression d'avoir trouvé un être symbolique dans un sommeil profond. Et avec, n'est-ce pas, comment dire, tellement voilé qu'il était invisible. Et au contact, alors c'était comme si le voile était déchiré et sans qu'il se réveille, d'abord une sorte de radiation qui se répandait. Je vois encore, n'est-ce pas, ma vision. Ça, c'est... Il y a toujours... une manière qu'on pourrait presque dire populaire, n'est-ce pas, de présenter ces choses comme toute l'histoire de la création, enfin de l'histoire de comment les choses sont arrivées. On peut le dire comme un déroulement d'histoire. Ça, c'était ce que Théon avait fait, n'est-ce pas, dans ce qu'il appelait la tradition. Un livre qu'il appelait la tradition. Et il racontait toute l'histoire. Mon Dieu, comme elle est racontée dans la Bible aussi, n'est-ce pas? C'est-à-dire... le symbole de forme qui recouvre la connaissance psychologique. Il y a une façon psychologique de dire les choses, n'est-ce pas? Et il y a une façon métaphysique de dire les choses. La métaphysique, pour moi, c'est... enfin, c'est ce qui est incompréhensible. C'est pas intéressant. Intéressant seulement pour les esprits comme ça. Par exemple, n'est-ce pas, une façon tout à fait presque enfantine et tout à fait imagée de dire les choses me paraît plus évocatrice que toutes les théories métaphysiques. Mais ça, c'est une opinion personnelle, ça n'a pas de valeur. Le côté psychologique est plus dynamique pour la transformation. Ça, c'est généralement celui que Sri Aurobindo a adopté. Il ne nous raconte pas d'histoire. S'il y avait des histoires, c'était moi qui lui racontais. Moi, les images, n'est-ce pas, c'est très évocateur. Mais si on combine les, en tout cas les deux, à vrai dire, pour être philosophique, il faudrait combiner les trois. Mais ça, j'ai toujours eu l'impression que ça donnait aux gens l'idée qu'ils savaient, mais que c'est seulement une idée. Ils ne savaient rien du tout parce que c'est ineffectif. Ça ne réalise pas. Au point de vue du push, n'est-ce pas, de l'élan vers la transformation, évidemment, le côté psychologique est le plus puissant. Et l'autre. Sri Aurobindo a donné beaucoup de ça qui vient, ça qui vient, ça qui vient. Il y en a dans le livre. Dans le livre Vyarogol, il y a toute un tableau comme ça. Mais je dois dire que ils l'ont mis très sérieusement dans le livre. Mais il l'a fait, je l'ai vu le faire. Et il l'a fait comme un amusement. Il a dit on peut. Quelqu'un lui avait parlé des choses, des différentes religions, des différentes méthodes philosophiques, et puis comment ça s'appelle? Adia, théosophie, la théosophie et Blavatsky, tout ce genre. Il y avait aussi la chose de Théon. Chacun a fait des tableaux comme ça. Alors il dit, moi aussi je peux faire un tableau. Et mon tableau sera beaucoup plus complet. Et puis alors quand ça a été fini, il a ri, il a dit, mais ça ce n'est qu'un tableau, c'est pour s'amuser. On l'a mis très sérieusement, comme s'il l'avait déclaré comme une chose. C'est très compliqué.
Non, la difficulté, je dis, c'est, les gens vont dire, mais pourquoi la nécessité d'une descente si tout est involué et évolue, n'est-ce pas? Pourquoi une descente? Pourquoi l'intervention de Kant?
Oui, non, pardon, mais il fallait défaire ce qui a fait cette évolution. La cause de l'évolution, il fallait que ce soit défait. Dans l'histoire de Théon, c'était comme ça, n'est-ce pas? D'abord, la mère universelle, qu'il n'appelait pas la mère universelle, mais Sri Aurobindo l'appelle la mère universelle. La mère universelle chargée de la création. Elle fait quatre émanations pour la création. N'est-ce pas? Les quatre émanations sont la conscience, ou lumière, la vie, la mort ou béatitude. Et tout ça. Je crois que j'ai une anémie cérébrale aujourd'hui. N'est-ce pas, l'Inde n'a que trois, Sat, Chit et Ananda. C'est-à-dire Sat, c'est l'existence, c'est ce qui se traduit par la vie. Chit, c'est la conscience, c'est ce qui se traduit par le pouvoir. Ananda, c'est la félicité, qui est synonyme de l'amour. Mais selon Théon, il y en avait quatre. Et je me suis, mon Dieu, je savais ça par cœur. J'en ai parlé une fois. Et alors, ces émanations, c'est raconté d'une façon compréhensible par quelqu'un qui n'est pas un philosophe, ni qui a un esprit enfantin, n'est-ce pas? Ces émanations conscientes de leur pouvoir, se sont séparés de leur origine. C'est-à-dire qu'au lieu d'être entièrement soumises à la volonté suprême et de ne faire que de n'extraire la vérité, c'est le quatrième. Au lieu de ne faire que ça, n'est-ce pas, ils ont, naturellement, c'était comme si... Ils avaient sens de leur pouvoir personnel, c'était des sortes de personnalités, n'est-ce pas? C'était des personnalités universelles, mais c'était des personnalités qui chacune représentait son mode d'être. Et alors, au lieu de rester branchées, elles sont séparées, elles ont fait à leur idée, n'est-ce pas? Pour le mettre comme ça, tout à fait compris. Et alors, naturellement, la lumière est devenue obscurité, la vie est devenue mort, l'amour est devenu souffrance, et la vérité est devenue mensonge. Alors, il y a eu les quatre grands asuras, n'est-ce pas? L'asura de l'inconscience, l'asura du mensonge, l'asura de la souffrance, et l'asura de... J'ai encore une fois oublié. De la mort. Alors, une fois que ça s'est arrivé, n'est-ce pas, la conscience divine s'est tournée vers le suprême et lui a dit, ben voilà ce qui est arrivé, comment faire? Oh, c'est divin. Est sorti une émanation, n'est-ce pas? C'était pas l'amour, c'était l'ananda, tu comprends? C'était la félicité, la joie d'être, qui est devenue souffrance. Et alors, hors du suprême est sorti l'amour. Et l'amour est descendu dans ce domaine d'inconscient, qui était la première, le résultat de la création du premier émané, qui était conscience. Conscience et lumière qui est devenue inconscience et obscurité. Et alors l'amour est descendu dedans, directement du suprême. C'est-à-dire il a, n'est-ce pas, il a fait une nouvelle émanation. Et ça sans... Parce que, suivant l'histoire, il a d'abord, n'est-ce pas, d'abord la mère universelle a créé tous les dieux qui, eux, sont descendus, sont restés en contact avec le Suprême et ont créé tous les mondes intermédiaires pour contrebalancer cette chute. C'est la vieille histoire de la chute, n'est-ce pas? Cette chute dans l'inconscient. Mais ça n'était pas... Pendant que ça se faisait, il y a eu cette descente directe, sans passer par tous ces mondes intermédiaires, directe dans la matière de l'amour. Voilà l'histoire, enfin. Ça, c'est la première descente. Toi, tu veux parler de la descente dont parle Sri Aurobindo?
Oui, mais je
veux parler... la descente du supramental.
Pas seulement. Par exemple, il dit que quand la vie est sortie, il y a eu en même temps une pression de l'évolution pour faire sortir la vie et en même temps une descente de la vie, de son vrai plan à elle.
Oui.
Puis après, quand le mental est sorti, le mental est sorti,
chose.
Mais même chose d'en haut aussi. Oui. Pourquoi à chaque fois cette intervention d'en haut? Pourquoi ce n'est pas sorti normalement les uns des autres, sans avoir besoin d'une...
Pourquoi est-ce que tout est devenu de travers aussi? Non, ça se comprend très bien quand on a l'expérience. Par exemple, n'est-ce pas, cette expérience du mental, l'évolution de la nature, n'est-ce pas, et le mental qui sort de son évolution petit à petit. Eh bien, ça c'est une expérience très concrète, n'est-ce pas? Que ces premières formes, ces premières formes mentalisées, pour ainsi dire, ont été des formes étaient nécessairement des formes incomplètes et imparfaites parce que l'évolution de la nature est lente et hésitante et compliquée. Et là, il y a eu dans ces formes une aspiration, forcément, vers une sorte de perfection et d'état mental vraiment parfait. Et cette aspiration a fait descendre du monde mental les êtres qui étaient déjà des êtres pleinement conscients et qui se sont unis. Ça, n'est-ce pas, cette expérience-là, c'est une expérience très, très, très concrète de ce qui sort comme ça de l'inconscient. C'est presque une possibilité impersonnelle. C'est une chose. C'est une possibilité impersonnelle et peut-être pas tout à fait universelle puisque ça correspond à l'histoire de la Terre. Mais enfin, générale. Impersonnelle. Et la réponse d'en haut, c'est ce qui concrétise, pour ainsi dire. Et d'abord, c'est une sorte de perfection d'état. Et de maîtrise individuelle de la nouvelle création. Ces êtres qui sont venus, n'est-ce pas? Il y avait des êtres dans des mondes correspondants, comme les dieux dans l'Overmind, comme des êtres dans dans les régions supérieures, qui sont venus sur la Terre dès que l'élément correspondant commençait à évoluer de son involution. D'abord, ça précipite l'action, mais aussi ça la rend plus parfaite. Plus parfaite, plus puissante, plus consciente. Ça donne une sorte de sanction de réalisation. C'est comme ce qu'il écrit dans la Savitrie, n'est-ce pas? Que cette Savitrie qui vit toujours sur la terre, qui a vécu toujours sur la terre avec l'âme de la terre, pour faire progresser aussi vite que possible toute la terre, eh bien, il y a un moment donné où en elle, quand les choses seront prêtes, la mère divine s'incarnera avec sa pleine puissance. Quand les choses seront prêtes. Et alors ça sera la perfection de la réalisation. C'est une splendeur de création qui dépasse toute la petite logique. Ça donne une plénitude et une puissance qui dépasse complètement toute cette petite logique un peu plate de la mentalité humaine. Les gens peuvent pas comprendre, n'est-ce pas? Se mettre au niveau du peuple, c'est très bien. Moi, je n'ai jamais trouvé ça bien. Mais enfin, ça peut être inévitable. Mais espérer qu'ils comprendront jamais la splendeur de la chose, il faut d'abord qu'ils la vivent. Moi, dans ces cas-là, je n'aborderai jamais le pourquoi. Je dirai toujours, c'est comme ça. Quand les gens viennent me dire pourquoi est-ce que c'est arrivé comme ça, pourquoi est-ce que le monde est malheureux, pourquoi il commence par être obscur avant d'être lumineux, pourquoi est-ce qu'il y a eu cet accident, si on l'appelle accident, pourquoi est-ce que le Seigneur a permis. On peut toujours donner des réponses. On peut dire c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela, il y a 50 000 réponses qu'on peut donner, mais qui ne valent rien du tout. C'est comme ça,
Oui. C'était pas tellement une question de pourquoi que de processus que je demandais. Mais ce que tu dis est...
Moi, le processus, ça, je te donne un processus historique, par expérience.
Il faut les deux choses.
Seulement, n'est-ce pas, comment? Oui. Là. Ça, c'est... La Terre est un monde représentatif et symbolique, une sorte de cristallisation et de concentration de l'œuvre d'évolution afin de lui donner une réalité plus concrète. Et il faut le prendre comme ça, l'histoire de la Terre est une histoire symbolique. Et c'est sur la Terre que se fait cette descente, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'histoire universelle de la création universelle, c'est l'histoire de la création terrestre. C'est dans l'être individuel terrestre que se fait la descente. C'est dans l'atmosphère individuelle terrestre que se fait la descente. C'est, n'est-ce pas, tu prends cet exemple parce que Savitri est très, très explicite pour ça. Enfin, la mère universelle est universellement là, universellement à l'œuvre dans l'univers. N'est-ce pas? Mais nous prenons la terre comme une concrétisation de tout le travail à faire pour que l'évolution arrive à sa perfection, n'est-ce pas, à son but. Eh bien là, d'abord il y a une sorte d'émanation d'émanation représentative de la mère universelle qui reste sur la terre tout le temps pour l'aider à se préparer. Et quand la préparation est complète, à ce moment-là, la mère universelle elle-même descendra sur la terre pour finir son travail. Et elle le fait, n'est-ce pas, comment il s'appelle le... Tu sais, ce sont des trucs.
Satyavan.
Satyavan, c'est l'âme de la terre. N'est-ce pas? Alors, elle vit comme ça, en union étroite avec l'âme de la terre, et ensemble, ils font le travail. Elle a choisi l'âme de la terre pour son travail. Elle a dit, c'est là que je ferai mon travail. Le reste, ça se fait comme ça. Il n'y a qu'à être, les choses sont. Là, il faut travailler. Sur la terre, il faut travailler. Naturellement, ça a des répercussions et des effets universels, c'est bien entendu. Mais c'est ici que ça se fait. C'est ici qu'est le lieu du travail. Alors, au lieu de vivre béatifiquement, n'est-ce pas, dans son état universel et au-delà, sur-universel, n'est-ce pas, l'état d'éternité hors du temps. Au lieu de ça, elle a dit non, je fais mon travail là. Je veux aller, je choisis. Et c'est là que le Suprême lui dit, c'est ma volonté que tu as exprimée. Je veux faire le travail là. Quand le tout sera prêt, quand la terre sera prête, quand l'humanité sera prête, sans même que personne ne le sache, mais enfin, ce sera prêt, quand le grand moment sera venu, eh bien, je descendrai finir mon travail. Voilà l'histoire. Eh bien, si les gens vous demandent pourquoi, on leur répond, c'est comme ça. Pourquoi ? Comment est-ce qu'on peut comprendre avec un petit cerveau humain pourquoi c'est comme ça ? Quand on le vit, on le sait. Ça ne se pose même pas, c'est évident, c'est comme ça parce que c'est comme ça, ça devait être comme ça. C'est comme ça. Vous pouvez trouver toutes sortes d'explications. Jamais la conscience n'aurait été aussi complète, jamais la joie n'aurait été aussi complète, jamais la réalisation n'aurait été aussi complète si on n'avait pas passé partout ça. Ça, c'est une explication. C'est pour satisfaire la pensée. Mais quand on est dedans, on n'a pas besoin d'explication. Et quant à espérer faire comprendre les gens qui lisent le livre avec intérêt, au fond c'est la seule chose qui importe, qu'ils le lisent avec intérêt, chacun s'imaginera qu'il a compris, il aura compris. Et à travers leur intérêt, eh bien ça éveillera quelque chose de leur conscience et une espèce de première aspiration vers le besoin de réaliser. C'est tout. Et si on fait ça, grand Dieu, on a fait une grande chose. Quant à leur faire comprendre, c'est un peu. Comment comprendre ? On ne comprend pas soi-même tant qu'on est là. On peut imaginer toutes sortes de choses, expliquer toutes sortes de choses, mais avec un peu de bon sens, on voit bien qu'on n'explique rien.